Mathilde Saliou sur notre site www.rfi.fr au micro de Julien Coquel-Rohem. Vous écoutez RFI, il est 9h10 ici à Paris.
Radio G, www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Comme nous en avons pris l'habitude chaque année à pareille époque, nous vous proposons une lecture pour célébrer le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons voulu donner la parole aux femmes afghanes de nouveau réduites au silence et opprimées par les talibans en vous proposant des extraits du livre de Mursal Sayas, « Qui entendra nos cris ?», publié aux éditions de l'Observatoire en 2024. Après une présentation de l'auteur et de son travail auprès des femmes, nous vous lirons un des 10 témoignages qu'elle a recueillis. Un choix difficile parmi ces témoignages révoltants qui montrent l'ampleur de l'oppression que subissent les femmes d'Afghanistan de la part des talibans, mais aussi à cause d'une société patriarcale et archaïque. La lecture sera ponctuée de poèmes sur les femmes et aussi sur la guerre, tirés de l'anthologie « Le cri des femmes afghanes » paru aux éditions Bruno Doucet en 2022.
Les femmes d'Afghanistan, par Mursal Sayas, Paris, printemps 2023. Entre la fin de l'année 2017 et le jour où l'Afghanistan est tombé à nouveau entre les mains des talibans, le 21 août 2021, j'ai été employée par la Commission indépendante des droits de l'homme à Kaboul. C'est au sein de cette commission que j'avais commencé ma carrière, en tant qu'adjointe du département de la protection et du développement des droits des femmes. Et j'y ai poursuivi mon travail jusqu'à la fin de l'année 2020. Pourtant, après 3 ans d'efforts intenses dans le domaine des violences conjugales, je me suis sentie incapable de continuer au même poste. En effet, si ferme soit mon intention d'effectuer un travail de qualité, il m'est apparu que je n'atteindrais pas l'objectif principal que je m'étais fixé, rien de moins que de changer la situation générale des droits de l'homme dans mon pays. Dès lors, l'une de mes fonctions principales a été de traiter les cas de violence contre les femmes, mais également les dossiers de femmes incarcérées ou résidant dans des refuges. C'est en tant qu'enseignante que j'ai dû me rendre sous la direction du bureau de Kaboul dans les provinces de Parwan, de Kapisa, du Panchir, de Meydan, de Wardak, de Ghazni et de Logar. La situation sociopolitique, les conditions sécuritaires ainsi que les restrictions imposées par mon mari d'alors m'ont malheureusement empêché d'accéder à plusieurs autres provinces. C'est pourquoi, lorsque des postes d'enseignants des droits de l'homme ont été proposées par la commission, j'ai immédiatement posé ma candidature et eu la chance d'être recrutée. Ce poste, qui m'a fait voyager, après mon divorce, jusque dans les régions les plus reculées de l'Afghanistan, m'a permis d'observer de près les besoins de la population en matière de droits de l'homme et de les ressentir au plus profond de moi. Outre le problème des femmes subissant des violences, de nombreuses missions m'attendaient. Je devais aussi promouvoir l'égalité des sexes. Mes compétences en droit devaient permettre aux femmes d'accéder à des procès équitables, ainsi que de veiller au respect des décrets et des lois, sans oublier de rappeler les droits en matière de santé, d'éducation et de formation. Malheureusement, la plupart des affaires que j'ai traitées n'ont pas obtenu les résultats souhaités. Beaucoup de ces dossiers ont fini au fond d'un placard sans issue satisfaisante. Ce non-suivi des dossiers, de nombreux facteurs l'expliquent. Par exemple, la pression exercée par les hommes pour que les femmes renoncent à leurs demandes ou à leurs plaintes. Il y a aussi le manque de moyens et d'outils nécessaires pour suivre certaines affaires, notamment les meurtres commis au sein des familles. Même la Commission des droits de l'homme n'était pas en mesure d'ouvrir les dossiers des mariages forcés et des viols commis par des seigneurs ou des hommes influents. S'ajoutent à toutes ces infractions aux droits de l'homme les nombreux cas où de jeunes personnes, filles et garçons, s'enfuient du domicile parental et disparaissent sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus. S'ils se font rattraper, ils sont mis à mort. Une telle exécution a été perpétrée devant les bâtiments même de la commission. Ce fut un des événements les plus atroces et les plus tragiques qui se soient produits à Kaboul. Il est regrettable cependant que malgré la place importante qu'elle occupe et malgré ses engagements, la commission ait été traitée avec ironie et dérision par certains, jusque dans les rangs des employés des institutions judiciaires. Que n'avons-nous pas entendu ? À les écouter, notre commission était une organisation nuisible ayant pour but de pervertir les femmes et les jeunes filles. C'est cela qu'on nous reprochait, à mes collègues et moi, lors de rencontres publiques et officielles. Et pourtant, je me dois de rappeler le rôle efficace joué par la commission et ses effets bénéfiques. Elle reste une institution essentielle pour la protection et le respect des droits de l'homme. On ne peut nier les conséquences positives sur le sort des femmes. Nombre d'entre elles ont trouvé refuge dans des foyers sécurisés. Elles y ont été informées de leurs droits. On a ainsi noté une évolution dans le traitement des dossiers de victimes, et ce, jusqu'au sein des tribunaux. Des lois et des décrets ont été modifiés ou assouplis en faveur des femmes. De nombreuses jeunes filles ont eu la possibilité de s'adresser à la commission dans des cas de mariage forcé ou précipité, des pratiques courantes, qui sont l'expression même du mépris envers les femmes. Dorénavant, elles estimeront avoir le droit de choisir leur futur mari et s'opposeront aux tabous et aux stéréotypes d'une société traditionnelle. Dans les moments difficiles, elles se rappelleront qu'une institution défend leurs droits et les soutient. Les récits que je rapporte dans ce livre sont le fruit d'entretiens et d'échanges avec des femmes et des filles victimes de violences. Certains se sont déroulés dans des foyers pour femmes battues, d'autres dans des hôpitaux ou des organismes recueillant les plaintes de femmes privées de leurs droits. Ces récits ont pour but de rappeler les cruelles et terribles violences subies par les femmes en Afghanistan pendant de longues années, et même durant les années de présence des forces internationales et la gouvernance d'une république islamique prétendument démocratique. Les faits que je rapporte racontent également la vie amère que mènent ces femmes. Ils dévoilent le visage d'une société profondément patriarcale avec ses règles islamiques strictes et ses coutumes qui oppriment les femmes. Ces histoires racontent la violence des hommes, mais aussi celle des membres de la famille. Entre eux se crée un réseau de complicité auquel les femmes elles-mêmes participent. Élevées selon les normes patriarcales et sous l'influence et la domination masculine, elles agissent contre leurs propres intérêts. Il arrive que certaines maltraitances, aussi horribles que brutales, soit parfaitement indescriptible. Quelquefois, ce n'est qu'en me mettant à la place de la victime que j'ai pu comprendre les actes subis. Il me vient un exemple, celui d'une jeune fille d'origine pachtoune, amoureuse d'un garçon hazara, et qui a fugué en quittant le domicile de ses parents. Mon expérience dans ces cas-là me permet de deviner facilement le terrible sort qui l'attend. Et puis, il y a le cas de cette femme, mariée de force, venue porter plainte parce qu'elle en aimait secrètement un autre. Parfois, en écoutant certaines personnes raconter leur histoire, on est traversé par un frisson glaçant et l'émotion vous prend à la gorge. Même à l'époque de la République et de ses 20 années de démocratie, les femmes menaient une vie aussi difficile qu'injuste. Quelle que soit leur classe sociale et leur niveau culturel, ces femmes ont alors subi les pires maltraitances imaginables. En un temps où l'on parlait de démocratie et de droits de la femme, où l'on avait officiellement signé une convention sur la suppression de toute discrimination envers les femmes, ainsi que d'autres conventions censées garantir leurs droits. Afin de survivre, ou simplement d'exister, elles frappaient à toutes les portes pour trouver une solution à leurs problèmes. Beaucoup d'entre elles se sont retrouvées en prison pour avoir simplement demandé de l'aide. D'autres, pour avoir osé réclamer justice, ont été expédiées dans des foyers où elles étaient à nouveau victimes d'agressions et de violences sexuelles. Certaines y ont laissé leur vie. Aujourd'hui, tandis que j'écris, de terribles souvenirs me reviennent. Je me rappelle en particulier à quel point il était douloureux de voir la trace des coups de ceinture, de câbles, ainsi que les cicatrices des coups de couteau, des coups de poing et des coups de pied assénés sur les corps faibles et épuisés de ces femmes. Elles souffraient en silence tout en se battant pour survivre. Alors que je vis actuellement à Paris, loin de l'Afghanistan, je suis encore hantée par toutes ces souffrances qu'elles ont vécues. Chacune de leurs blessures est gravée sur mon corps et sera vive chaque fois que je prends la plume. Les regrets m'assaillent à la pensée de n'avoir pas pu aider ces femmes, et la tristesse m'envahit constamment. J'entends encore les cris et les gémissements des femmes hospitalisées qui cachaient leur visage sous les bandages. Je ne compte pas les larmes que j'ai versées en pensant à elles. Mes rencontres avec ces femmes maltraitées ne se limitaient pas seulement à consigner et à traiter leurs plaintes. Je passais aussi de longs moments parmi elles. Nous pouvions nous entretenir des heures durant quand elles venaient frapper à la porte de la commission, ou quand elles se retrouvaient dans des foyers, les seuls endroits où elles étaient en sécurité. Il m'arrivait aussi de rire de bon cœur lorsqu'elles me racontaient des blagues délicieuses, bien qu'elles fussent incarcérées pour des crimes d'amour interdites, ou pour s'être enfuies de chez elles en vue de retrouver l'être aimé. Le récit de leurs amours pouvait durer des jours entiers, voire des mois ou des années. Leur courage hors du commun, leur volonté inébranlable d'obtenir l'égalité avec les hommes, admirons-les. Car il faut beaucoup d'audace pour s'opposer à la tyrannie et à l'oppression masculine. Quant à moi, toute la compassion dont j'étais capable ne parvenait pas à apaiser leurs souffrances. Ces souffrances qui les torturaient jusqu'au plus profond de leur corps et de leur âme. Même si je m'étais donné comme mission d'arracher le voile qui cachait ces réalités amères et de révéler au monde entier les horreurs d'une société répressive, rien ne peut plus me guérir de ces blessures gravées au plus profond de moi-même. Vous comprenez maintenant les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Il s'agit pour moi de raconter et de documenter toutes les violences commises contre les femmes en Afghanistan. J'en ai fait une mission et même un devoir. Impossible pour moi de ne pas dénoncer le caractère inhumain que revêt la société dans mon pays natal. D'où la nécessité absolue de publier ces récits sans tenir compte d'éventuels tabous, sans que la pudeur, la honte ou la chasteté viennent occulter la vérité nue. Car il faut parler crûment et sans embâge lorsqu'on parle de corps martyrisés, briser la loi du silence. En Afghanistan, on ne peut parler du corps des femmes sans éprouver de la honte. Il est temps de surmonter cette honte. Pour rendre compte de l'oppression dont souffrent ces femmes, je disposais d'une centaine de témoignages. J'en ai retenu 10. Je veux qu'elles sachent que je les considère comme des héroïnes sans médaille. Bien que victimes, elles ne sont pas pour autant soumises. Malgré les dangers auxquels elles s'exposent, elles ont osé quitter leur foyer pour revendiquer leur liberté et pour lutter contre la tyrannie insupportable des hommes. Tel est le sens de ce livre. Saluer et louer leur courage ainsi que leur audace hors du commun.
Me voici. je suis femme. Me voici, je suis moi, je suis femme, je suis monde, je chante la liberté, je chante la tendresse. Et toi, je t'en conjure, toi aussi, mon héros, ô toi ma barricade, soulève-toi, toi qui habites ce monde, le même que le mien. Même la gorge écrasée sous le joug de leurs bottes, même la bouche en sang sous les coups de leurs poings, je le jure. Par le soleil de mon cœur, je le jure. Je ne resterai pas dans ces noires ténèbres. Jamais. Jamais. Me voici. Je suis moi. Je suis femme. Je suis monde. Je chante la liberté. Je chante la tendresse. Et toi, je t'en conjure. Toi aussi, mon héros, ô toi, ma barricade, soulève-toi, toi qui habites ce monde, le même que le mien. Ils ont construit des murs, érigé des barrages, ils ont planté bien haut les gibets de la mort, mais moi, je me tiens là, debout, et ferme, et fier, sans peur de leurs ténèbres. Me voici, je suis moi, je suis femme. Je suis monde, et sur mes lèvres passe le chant de l'aube blanche, et je jure, je le jure sur le soleil levant, le soleil qui viendra, je resterai fidèle au pacte que j'ai passé, à toutes mes promesses. Poème de Seda Soltani et Zahra Mousavi sur un chant patriotique afghan. Amère, je suis poétesse des temps amers, fuyant loin de ma douceur de femme pour parler de ce temps qui n'est pour mon peuple que malédiction et damnation. Mes mains sont vides, étrangères à toute beauté, incapables de la saisir, de la toucher. Femme d'un peuple de sang et de blessures, je ne peux faire face à l'amour qu'en le fuyant, en renonçant, pas le temps de faire connaissance avec moi-même. Sur les blessures de mes enfants, pas d'autre baume que ma main. Comment chanterais-je la légende insouciante des jardins verdoyants et sereins? Mes enfants ne savent rien d'autre que les ronces des chemins, rien d'autre que les ronceraies de la fuite d'exil en exil. Aux quatre coins, de quelle terreur hurlerais-je, la berceuse de l'amour, devenue boule dans le tombeau de ma gorge? Quand pourrais-je parler d'amour et de la féminité enfouie en moi? Quand pourrais-je m'asseoir en prière et dire la beauté en poème lyrique? Je suis aujourd'hui et jusqu'au prochain exil la narratrice des lassitudes et des douleurs. Poème de Khaleda Niyazi, Laïb.
Saman, quand la sœur remplace la dot du frère. Il y avait cette fille qui habitait notre quartier avec sa famille. Nous la croisions de temps à autre dans les soirées entre voisins. Sa famille semblait généreuse et cordiale. Ils nous apportaient quelquefois des plats qu'ils avaient concoctés. Cette fille accompagnait toujours les siens. Et à chaque événement au sein de notre foyer, bon ou mauvais, elle était présente avec eux. Un bonjour, mon père décida de demander sa main pour mon frère. Mon frère n'était pas convaincu par ce mariage, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas s'opposer à la décision de notre père. C'est pourquoi il n'a pas opposé de résistance. Ainsi, nous l'avons tous accompagné pour la demande en mariage officielle. Comme le veut la tradition, la première demande resta sans réponse. Il fallait donc attendre. Les fois suivantes, toujours pour la même raison, nous sommes retournés là-bas avec des sucreries et des fruits. L'étiquette afghane imposait à l'autre famille de ne pas accepter nos fruits et notre nourriture. Nous retournions donc à notre domicile, en plaisantant et en bénissant cette fille qui nous offrait indirectement ces moments de famille durant lesquels on se gavait de mets raffinés. J'ai, durant cette période, mangé tant de sucreries que l'on aurait pu me confondre avec un écureuil qui se goinfre avant l'hiver. Mon comportement boulimique énervait mon frère, mais nous continuons à en rire. Vint enfin la fois où nous allâmes chez eux pour apporter des cadeaux. Ils les acceptèrent et déclarèrent qu'ils souhaitaient que les hommes de la famille se rencontrent. C'était de bon augure, car en Afghanistan, ce sont les hommes qui tranchent les décisions. Le souhait d'organiser cette rencontre signifiait qu'ils acceptaient la demande. Heureux et excités, nous avons demandé à Dieu de bénir les préparatifs de cette union. Le rendez-vous eut lieu le lendemain. À l'instar des premières visites, nous nous sommes rendus chez eux avec la famille au complet. Les hommes se concertaient dans une pièce, les femmes étaient dans une autre. Comme l'exigeait la tradition, la fille promise à mon frère nous apporta du thé. C'était l'occasion pour elle de rencontrer sa future belle-famille. En échange de sa main, la famille de la future mariée demanda une dot excessive, ainsi qu'un douaire, une portion de bien que le mari réserve à son épouse dans le cas où celle-ci lui survivrait. Ils précisèrent que si nous n'étions pas en mesure de payer ses frais, une autre solution pourrait être envisagée, mais ils ne dirent pas quoi. Mon frère, qui se trouvait au centre des attentions, était quant à lui partagé entre la joie et la tristesse. Cet événement allait radicalement changer sa vie. De retour à la maison, je dis à mon père et à mon frère, « Il va falloir accepter leur proposition, même au prix fort. Ne saviez-vous pas que se marier présente un coût? Les mariages gratuits n'existent pas. Peu importe quelle fille, il faut payer la dot et le douaire. Il faudra aussi une maison et les meubles, le matériel nécessaire pour leur installation. » Mon père rebondit sur mes paroles. Cela coûterait très cher, c'est vrai, mais si toi tu épousais le frère de cette fille, alors on pourrait s'arranger pour le mariage de ton frère. Réfléchis, tu ne serais plus une quasi vieille fille, tu serais casée et cela nous permettrait de faire de sacrées économies. Chaque fille doit se marier tôt ou tard. En plus, ce sera avec quelqu'un que l'on connaît. Croyant que mon père plaisantait, je me mis à rire spontanément. Mais en regardant les autres, avec leurs visages crispés, je compris que ce n'était pas une blague. Abasourdi, je me sentis traversée par un sentiment inconfortable. C'était donc moi la seconde solution dont avait parlé l'autre famille. Je gardais le silence, ce qui fut interprété comme une approbation. Toutefois, mon frère ajouta, « Le fils aîné de la famille ne souhaite pas cette union. Cependant, il doit composer avec la volonté de son père. » S'il n'acceptait pas ce mariage, il serait privé d'héritage. Mon père nous invita à nous taire et à patienter. Voilà, je n'avais rien dit, rien choisi, et je devais maintenant attendre la réponse de mon probable futur mari. Sans fiançailles au préalable. J'avais peur. J'étais terrifiée à l'idée d'être abandonnée à un mariage forcé, moi qui rêvais de mariage d'amour. Je ne savais même pas qui il était. D'ailleurs, lui non plus ne savait pas qui j'étais. Ce n'était pas son choix. J'étais effondrée. Mais que pouvais-je faire face à la décision des hommes de la famille? Je devais être obéissante. Les hommes de la famille avaient toujours fait en sorte d'assurer notre futur. Finalement, après quelques jours, une réponse arriva. Et elle était positive. L'autre famille acceptait que leur fils m'épouse. Ce dernier, comme moi, comme mon frère, n'avait rien pu dire pour s'y opposer. Quelque temps plus tard, nous nous sommes mariés en même temps que mon frère. Une fête de mariage fut organisée pour nous quatre. Mon frère jetait de temps à autre un coup d'œil sur sa fiancée et il se souriait. Il lui tenait secrètement la main et la lâchait avant que les autres ne le remarquent. De temps à autre, il se murmurait des choses à l'oreille et mon frère riait. Sa femme arborait un petit sourire en évitant les regards des invités. Elle baissait la tête par timidité et pudeur et son visage rougissait. Eux semblaient finalement assez heureux. Mon fiancé, quant à lui, était crispé. D'épais cernes assombrissaient son visage. Il ne me regardait même pas. Je sentais son corps à côté du mien, bouillonnait de colère et de dégoût. Je pouvais lire le rejet dans ses yeux. Il savait tout de même que j'étais, tout autant que lui, une victime innocente de cet arrangement. Lorsque la fête fut terminée, la femme de mon frère rentra avec lui pour s'installer chez nous. Suivant le chemin inverse, je me rendis comme prévu dans le domicile de mon mari. Lors de cette première nuit, celui-ci m'expliqua qu'il n'avait pas l'intention de dormir avec moi. Il était en réalité amoureux d'une autre fille. Il rêvait de se marier avec elle et me détestait. Pour autant, nous devions rester dans la même pièce. Il me donna donc une couverture et un oreiller pour que je puisse dormir au pied du lit. Après cette soirée, je me suis efforcée tant bien que mal de conquérir son cœur, ou du moins de calmer son inimitié. J'avais entendu dire que le chemin vers le cœur d'un homme passait par son estomac. Je m'essayais donc à cette stratégie. Je lui concoctais d'excellents plans, puis je me maquillais soigneusement, me mis à porter de beaux vêtements. J'ai même adopté un ton romantique ainsi que le langage de l'obéissance, mais rien à faire. Aucune de mes approches ne l'affecta. Pire, mes efforts le rendirent encore plus grincheux et colérique, encore plus hostile. Cela commença par quelques coups. Puis mon mari se mit à me frapper plusieurs fois par jour. Un an et demi plus tard, il décida de se remarier et d'avoir une seconde épouse. Bien sûr, l'autre fille qu'il aimait. C'était compté sans sa propre famille qui le lui interdit. Elle lui signifia qu'il n'avait pas les ressources pécuniaires pour payer une nouvelle dot, ainsi que les dépenses d'un nouveau mariage. Le rejet de sa demande rendit mon époux encore plus frustré et violent avec moi. Je représentais à ses yeux la clé de voûte de tous ses tourments. Je devais donc en payer les conséquences. Pire encore, je devenais le bouc émissaire de toute une famille, puisque après avoir laissé faire, ceux-ci commencèrent également à me maltraiter. Je subissais les assauts de leur mépris, du harcèlement moral aux attaques physiques. Je n'osais pas informer ma famille des sévices dont j'étais victime. Pour ne pas les inquiéter davantage, j'enfouissais mes plaintes au plus profond de moi-même. Concernant l'autre couple de cet échange de femmes, mon frère et ma belle-sœur menaient une vie différente de la nôtre. Mais ce n'était pas non plus un mariage d'amour. L'épouse de mon frère rentrait systématiquement dans sa famille au moindre tracas. Elle sortit un jour en prétextant qu'elle allait rendre visite à son père. Mais elle disparut sans donner de nouvelles. Face à son absence prolongée, mon frère décida de se rendre au domicile de ses beaux-parents afin de la ramener à la maison. Lorsqu'il réalisa qu'elle n'était pas chez ses parents et donc qu'elle lui avait menti, il devint fou de rage. Quand il la trouva enfin, il lui demanda des explications. Lésé et humilié, il l'amena à la maison pour la battre. Ma belle-famille n'attendait que cela pour se défouler sur moi. La violence de mon frère envers sa femme fut utilisée comme prétexte pour me maltraiter davantage. J'étais comme prise en otage. Ainsi, ils épiaient constamment ce que je faisais. La moindre imperfection dans mes tâches ménagères était réprimandée. Si je contestais, si je désobéissais, ils m'enfermaient dans la cave. J'y restais sans eau et sans nourriture. Dans les quatre coins de cette cave et jusqu'au plafond, je voyais des araignées tissées d'énormes toiles. Les cafards et les souris y grouillaient à longueur de journée. Lorsqu'elle était présente, la femme de mon frère se rendait également complice de cette violence, histoire de faire comprendre à mon frère qu'il devait la traiter comme elle le souhaitait. Une fois, je fus enfermée 2 jours de suite dans ce cachot. Or, mon frère vint à ce moment-là chercher sa femme dans le domicile parental afin de lui présenter ses excuses pour les violences commises. Alors, la belle famille lui expliqua que j'étais temporairement enfermée dans la cave pour avoir désobéi. Il demanda à me voir. Constatant dans quelles ignobles conditions je me trouvais, il explosa de colère. Mon corps était recouvert de blessures et d'hématomes. J'étais tellement faible qu'il m'était impossible de me lever pour le saluer. À moitié morte, déshumanisée, j'étais allongée sur le sol humide. Révoltée par le traitement que je subissais, mon frère me transporta à l'hôpital. J'y restai quelques jours, le temps que mon état de santé s'améliore. Lorsque j'eus récupéré suffisamment de force, je retournai auprès de mon père. Celui-ci culpabilisa d'être le responsable de ma situation. En effet, c'est lui qui m'avait utilisé comme une monnaie d'échange avec l'autre famille. Il me soutenait comme il soutenait mon frère, tout aussi insatisfait de sa vie de couple. Entreprenant donc les démarches pour nous sortir de ce bourbier, il se rendit au bureau du procureur pour porter plainte contre la belle famille. Malheureusement, la plainte fut classée sans suite, faute de documents et de preuves. Mes plaies, de simples blessures, ce n'était pas suffisant. Comme nous étions déçus et frustrés. Déterminés, mon frère répliqua en demandant le divorce devant le tribunal. Par la même occasion, il remplit tous les papiers pour ma propre demande de divorce. La sienne fut acceptée, mais la mienne refusée. Après ce camouflet, je pris l'initiative de me rendre au commissariat pour leur raconter tous les sévices que je subissais. Mais là-bas, je me heurtais à la mentalité misogyne des policiers. Ils me traitèrent d'hystérique, d'impudique et de femme vulgaire. En finissant sur ces mots, Saman m'avait résumé son histoire et avait justifié sa présence. Nous venions juste de la calmer de sa crise. Une heure avant, son dossier en main, elle hurlait dans le couloir. « Je vais me tuer si mon affaire n'est pas résolue ici, je n'ai plus aucun espoir. Je vais m'immoler par le feu afin que tout le monde sache que les discours sur les droits des femmes ne sont que de grossiers mensonges. » Face à l'injustice qu'elle vivait, elle entrait dans une légère démence. Mais c'était une fille intelligente. Elle avait gardé une copie de l'ensemble de ses plaintes et de ses diverses demandes écrites. Elle avait également enregistré les paroles des fonctionnaires, ainsi que le manque de respect à son égard. Si une institution la rejetait, elle frappait à la porte d'une autre. Guidée par son courage, elle se rendit auprès de la police, au bureau du procureur, au département juridique, aux organisations spécialisées dans le soutien aux femmes. Et enfin, elle se présenta chez nous. Je l'accompagnais dans ses démarches auprès du département juridique de Kaboul. Nous traversâmes les bruyants couloirs du bâtiment où les gens affluaient pour diverses raisons. Querelles familiales, problèmes d'héritage, de dot, garde des enfants, divorce et rupture. Mon regard croisait celui d'hommes collés au mur, les pieds et les mains liés par les menottes. Et il ne sortait probablement de prison que pour être soumis à de nouvelles restrictions. Nous arrivâmes devant la porte du bureau de la direction judiciaire. En ouvrant la porte, le gardien me confondit avec l'avocate de la défense, quiproquo probablement causé par les vêtements officiels que je portais. Le directeur leva les yeux vers Saman et adressa au gardien en hurlant « Qui a permis à cette grossière femme d'entrer dans ce couloir ?» J'étais pétrifiée, je repensais à elle et au cours semé d'embûches qu'elle avait emprunté. De quel courage et de quelle persévérance cette femme avait fait preuve. Malgré le mépris institutionnel, elle poursuivait ses démarches contre vents et marées. Le gardien posa son regard sur moi et rétorqua « Monsieur le directeur, elle est accompagnée par une responsable des droits de l'homme. » Le visage du directeur se raidit. Il réalisa qu'il avait été pris en flagrant délit. Nerveux, il opta pour un comportement plus respectueux et présenta des excuses. « Veuillez me pardonner, je me suis emporté. J'ai eu une journée chargée et difficile. Après tout, nous sommes tous des êtres humains. S'énerver est dans notre nature. » Il s'adressa ensuite à Saman. « Chère madame, vous n'êtes pas seule dans cette affaire. Il y a 3 autres personnes qui sont également impliquées. Il faut donc tenir compte de leur version » et que l'on puisse les comparer avec la vôtre. De toute façon, ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu, car les familles ont procédé à un échange de femmes. Le directeur se tourna ensuite vers moi. Il savait que l'illégalité de cette forme d'union allait poser problème. Perturbé par ma présence, le directeur jeta à nouveau un coup d'œil aux plaintes et signala qu'il fallait remplir un deuxième formulaire pour mener à bien l'enquête demandée par sa maman. Il sortit un billet de 20 afghanis de sa poche de chemise et demanda au gardien de lui apporter une nouvelle feuille de formulaire. Il y glissa ensuite le billet. C'était sa manière d'aider Saman en payant les frais administratifs. Quelques jours plus tard, il changea la nature du mariage dans son dossier en précisant que c'était un mariage tout à fait ordinaire et légal. Ce mensonge fut paradoxalement une bonne chose. Les plaintes de Saman était dorénavant valide et elle put faire une nouvelle demande de divorce. Quelques mois plus tard, Saman revint nous rendre visite au bureau. Elle avait l'air heureuse. Ses grandes dents rendaient son sourire éblouissant. Elle avait réussi à obtenir son divorce, à se débarrasser de son mari, ce bourreau qui l'avait prise en otage. Elle lui en voulait, mais elle savait qu'il était lui-même prisonnier d'une mentalité ridicule, désastreuse, qui lui interdisait de la laisser partir par peur de déshonorer sa famille, bien qu'il n'eût jamais envisagé de vivre une véritable vie de couple avec elle. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de lui, si ce n'est pour apprendre qu'il ne s'était jamais marié avec la fille qu'il aimait vraiment.
Plus jamais je ne reviendrai. Je suis une femme, désormais éveillée. Je me suis levée des cendres de mon enfance, morte, et je suis devenue tourbillon. J'ai relevé la tête des rivières rougies du sang de mes frères. L'orage de la colère grondant de mon peuple m'a donné des forces. Les murs et les villages brûlés de mon pays m'ont rempli de haine pour l'ennemi. Ne me crois plus pauvre et faible. Mon frère, toi né comme moi sur cette terre, je suis une femme désormais éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai plus jamais avec mon regard perçant. J'ai tout vu dans la nuit noire de mon pays. J'ai entendu dans mes oreilles le tumulte des mères sans enfants qui crient au milieu de la nuit. J'ai vu les enfants aux pieds nus, perdus, tombés du nid. J'ai vu les mariés aux mains décorées de aînés revêtir la robe de deuil des veuves. J'ai vu les hauts murs sans fin des prisons qui avaient avalé la liberté dans leur ventre affamé. Je suis née une deuxième fois dans les combats, les bravoures, les épopées. J'ai appris l'hymne de la liberté. Dans les derniers soupirs, dans les vagues de sang, dans la victoire. Ne me crois plus pauvre et faible, mon frère. Toi, né comme moi sur cette terre, auprès de toi, avec toi, j'ai parlé d'une seule voix pour sauver ma patrie. Et ma voix s'est mêlée aux cris de milliers de femmes comme moi. Mes poings se sont serrés avec tous les autres poings de ceux qui sont nés sur notre terre. À tes côtés, sur le chemin de notre peuple, j'ai marché. Pour qu'ensemble nous brisions la souffrance de vivre et les chaînes de l'esclavage. Je ne suis plus celle que j'étais, mon frère. Toi, comme moi, née sur cette terre. Je suis une femme, désormais éveillée. J'ai trouvé mon chemin. Et plus jamais je ne reviendrai. Poème de Mena Keswar Kamal, assassinée au Pakistan en 1987. Attente. La nuit, les étoiles brûlent de douleur avec nous. La nuit, les nuages pleurent de chagrin avec nous. La nuit, les feuilles tremblent de peur avec nous. La nuit, les vents soufflent d'orage avec nous, et nous, dans les ténèbres de ces nuits, débordant de cris sans voix, avec la torche de nos prières, c'est l'aube que nous attendons. Poème de Parvin Pejvak.
Ces lectures ont été préparées par Annie et Marie-Paul à partir du livre de Mursal Sayas et de l'anthologie de poésie « Le cri des femmes afghanes ». Claude Michel a assuré le montage de l'émission. Les musiques traditionnelles afghanes que vous avez entendues sont interprétées par l'ensemble Zora, unique orchestre féminin afghan fondé en 2015 à Kaboul, qui s'est reformée au Portugal où vivent les jeunes musiciennes en exil depuis 2021. Nous vous remercions de votre écoute.
Chers auditeurs,
Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Samedi 8 mars 2025, de 20h à 22h, Michel vous propose une émission spéciale Journée internationale des femmes. Découvrez des femmes qui ont été oubliées alors que leurs inventions et leurs luttes ont été importantes pour la vie des femmes d'aujourd'hui, le tout enveloppé de chansons féminines militantes. Rendez-vous samedi 8 mars à 20h sur Radio G.
Bruno, j'en reviens pas, ça fait 6 ans.
6 ans quoi ?
Radiovision, le concours de chansons radio. Alors si vous êtes chanteuse ou chanteur, inscrivez-vous sur radiovision.fr.
Non mais t'as raison Sonia, mais vous n'avez que jusqu'au 18 avril pour tenter de gagner votre place et passer à la radio.
Alors inscrivez-vous dès maintenant sur radiovision.fr.
What you got in store for us?